Bonjour à tous. Alors, chers collègues, chers amis et chères personnes concernées par la dyslexie, merci d'avoir consacré du temps à venir assister à cette journée que j'ai l'honneur de commencer par une présentation un petit peu générale sur ce dont il s'agit lorsqu'on parle de dyslexie. Alors, pour l'instant, je ne parlerai pas exclusivement de la question des dyslexiques adultes. On parlera plus largement de ce point dans le reste de la journée. L'objectif de cette première conférence, c'est d'évoquer les hypothèses d'explication scientifique qui sont, je dirais, le plus mises en avant aujourd'hui. Je ne pourrai pas tout détailler, j'ai été obligée de faire des choix. Et mon choix a été orienté par la possibilité d'articuler plusieurs de ces hypothèses dans un modèle intégré, un modèle qui donne du sens à ces différentes hypothèses les unes par rapport aux autres. Je pense que c'est un bon moyen pour éviter les querelles de chapelle entre les personnes défendant l'une ou l'autre de ces hypothèses et de réfléchir plutôt à leur articulation. Alors pour commencer, qu'entend-on par dyslexie développementale ? C'est aujourd'hui un trouble qui est défini de cette façon. Il s'agit d'un trouble parmi d'autres, un des troubles spécifiques des apprentissages, c'est-à-dire une difficulté ici tout à fait centrée sur un des domaines dans lesquels peut se déployer notre activité cognitive. Ce sont des difficultés avec l'écrit. Voilà. On définit la dyslexie comme un retard de lecture qui n'est pas un simple retard, justement. Il doit être important, tout d'abord, c'est-à-dire être, du point de vue quantitatif, au moins un retard de 18 mois, voire 2 ans, par rapport à l'âge normal. Et puis, il doit être important, suffisamment massif, ce retard, pour entraver véritablement les apprentissages à l'école. On sait aujourd'hui qu'il s'agit d'un déficit qui est d'origine neurodéveloppementale et cela signifie que il existe bien évidemment d'autres enfants qui ont des difficultés à apprendre à lire mais qui ne relèvent pas de la dyslexie, des enfants qui par exemple souffrent de déficit sensoriel, qui ont une scolarisation inadéquate pour différentes raisons, ou qui sont atteints d'une lésion cérébrale, d'une épilepsie, de problèmes de ce type-là. Eux, bien sûr, ils sont très intéressants. Bien sûr, il faut prendre en charge leurs difficultés d'apprentissage, mais ils ne relèvent pas de la dyslexie. C'est donc des critères d'exclusion. Aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur la différence entre un retard de lecture et la dyslexie. Et c'est pas anodin parce que ça veut dire qu'on s'intéresse à la dyslexie du point de vue qualitatif. C'est-à-dire qu'on considère que le fonctionnement d'un enfant ou d'un adulte dyslexique est un fonctionnement différent. C'est quelqu'un qui traite l'écrit, hein, qui peut produire de l'écrit, qui peut lire, mais d'une manière différente des autres enfants et plus tard des autres adultes. Je vais terminer cette diapo en disant que la dyslexie, c'est un déficit qui est vécu par les personnes concernées, mais aussi par l'entourage, comme quelque chose d'assez intrigant, d'assez étrange et d'inattendu, parce que on ressent, en tant que dyslexique, un décalage important entre ces grandes difficultés avec l'écrit et, d'autre part, un fonctionnement intellectuel harmonieux. Voilà. Ce déficit concerne, j'imagine que vous le savez, de 5 à 8% des enfants scolarisés normalement, quelle que soit la langue, quel que soit le système d'écriture. Et aujourd'hui, ça c'est un petit peu une nouveauté, on considère que l'on peut utiliser ce terme et donc poser ce type de diagnostic à partir du moment où l'enfant a déjà bénéficié d'une prise en charge d'au moins 6 mois et que celle-ci n'a pas suffi à faire disparaître le trouble. Voilà. Ça, c'est la définition. Maintenant, être un enfant dyslexique, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour s'intéresser à cette question-là, il faut rajouter quelques éléments, il me semble. Alors, ça m'est peut-être un petit peu plus personnel, mais voilà. Être un enfant dyslexique, c'est ressentir ce décalage important que j'évoquais tout à l'heure entre des capacités intellectuelles tout à fait normales et des difficultés majeures vécues souvent comme étranges avec le traitement de l'écrit. C'est aussi présenter le risque de passer dans un cercle infernal parce qu'un enfant qui lit mal est un enfant qui sera moins tenté de lire. Il lira peu, il aura donc de moins en moins de chances au fur et à mesure qu'il grandira d'enrichir son lexique orthographique, ses connaissances orthographiques. Et ces difficultés de lecture peuvent devenir de plus en plus, peuvent le placer dans une différence de plus en plus massive par rapport aux autres enfants de son âge au fur et à mesure de son avancée en développement. Être un enfant dyslexique, c'est aussi être en difficulté à l'école, mais aussi dans certaines activités culturelles et des activités de jeu, parce que l'écrit, on en a besoin dans ces différents secteurs de la vie courante. C'est aussi souvent être amené à beaucoup douter de soi. En particulier, quand la prise en charge est un petit peu tardive, l'enfant se rend compte qu'il traite l'information différemment et qu'il a des difficultés que ses camarades n'ont pas. Ce qui conduit parfois à des conduites d'évitement de situations de jeu ou de situations scolaires où l'écrit est mis en avant. Et l'enfant se rend compte que souvent, ses difficultés sont mal interprétées, de même que ses propres réactions à ces difficultés. Être enfant dyslexique, c'est aussi souvent se sentir mal compris, pas forcément être mal compris, mais le vivre comme tel. C'est souvent aussi donner l'impression de ne pas faire d'efforts, et tout cela peut engendrer un certain sentiment d'impuissance, mais aussi d'injustice. Ça dépend des enfants, bien sûr, et ça dépend du cercle familial et amical qui est autour de tout ça. Mais il y a un point sur lequel j'aime bien toujours insister, c'est qu'un enfant dyslexique est souvent un enfant anxieux. C'est difficile de faire la part des choses. Est-ce que l'anxiété est associée beaucoup plus fondamentalement à la dyslexie que cela? Mais en tout cas, c'est vrai que le fait d'être dyslexique est un des facteurs pouvant engendrer ce mal-être. C'est aussi, je pense que tout à l'heure on insistera encore sur ce point, c'est aussi avoir le risque de présenter d'autres déficits qui sont des déficits associés. Bien sûr, il existe des troubles spécifiques de l'apprentissage de la lecture qui sont purs, mais on a aussi beaucoup de cas d'enfants qui présentent des troubles multidys ou un trouble associé à leur dyslexie. Ça peut être par exemple un enfant qui, dans la petite enfance, était dysphasique et qui va développer une dyslexie. Il peut s'agir d'un enfant qui est à la fois dyslexique et dyspraxique. Et il peut s'agir aussi d'une association entre une dyslexie et un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce sont des exemples d'associations assez fréquentes que l'on rencontre. Un dernier point pour cette diapo, être un enfant dyslexique, c'est présenter une pathologie qui n'est pas forcément équivalente à celle des autres enfants également qualifiés de dyslexiques, parce qu'il existe plusieurs formes de dyslexie. Elle ne se manifeste pas toujours de la même façon et à mon sens, elle n'a pas toujours la même origine. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je m'en réjouis, je pense que la plupart des chercheurs sont engagés dans une démarche qui consiste à découvrir quelles sont les difficultés cognitives sous-jacentes à la dyslexie et qui ont provoqué la dyslexie pour cibler ce déficit sous-jacent plutôt que le trouble lui-même et qui n'en est que la conséquence. Alors pour cela, on dispose de plusieurs modèles et celui que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui est un modèle classique, le modèle de la double voix que je vais présenter dans sa version la plus contemporaine et ajouter des petites choses. Ce modèle décrit la lecture comme une activité passant avant tout par un premier ensemble de processus qu'on appelle le système de traitement perceptif visuel spécialisé en lecture. Autrement dit, à partir du moment où on est placé devant un stimulus constitué de lettres dans notre alphabet, ce système de traitement perceptif visuel spécialisé se déclenche automatiquement, quand on lit bien, bien sûr. Et il va réaliser plusieurs opérations qui vont conduire à construire une représentation orthographique du mot qui est sous nos yeux, c'est-à-dire une représentation qui est déjà organisée et abstraite. Suffisamment abstraite en tout cas pour ne plus être influencé par la casse, le fait que ce soit en majuscule ou minuscule, ni par la police de caractère. C'est-à-dire que ce système perceptif est spécialisé dans le traitement orthographique quand on est devenu un bon lecteur et nous permet, à partir de là, de continuer le traitement en lecture sur la base non pas du stimulus visuel, mais sur la base déjà d'une représentation mentale. Et cette représentation mentale se construit grâce à trois mécanismes. C'est un petit peu ça la touche de nouveauté qu'il y a dans le modèle de la double voix. L'un de ces mécanismes, c'est le mécanisme d'association lettres-mots. Un mécanisme qui peut nous sembler tout à fait trivial, mais qui consiste à prendre en considération uniquement les lettres pertinentes pour le mot lorsque l'on doit identifier le mot, bien qu'il soit dans le contexte d'une phrase ou de toute une page totalement écrite. De plus, il faut bien sûr identifier les lettres du mot. Et ça, on sait aujourd'hui que c'est ce qui garantit une lecture experte. Il faut identifier chacune des lettres du mot. Pas forcément les unes après les autres. Certainement, toutes les lettres sont traitées en parallèle, mais elles doivent toutes être traitées de manière précise. Sinon, il y a des confusions. La troisième opération qui relève de ce système perceptif spécialisé dans l'orthographe, c'est le codage de l'emplacement des lettres. Si nous ne codions pas précisément l'emplacement des lettres, on confondrait tout un tas de mots. En français, par exemple, on confondrait sans arrêt un mot comme loin, L-O-I-N, et lion, L-I-O-N, dont on peut identifier facilement les lettres, mais ce qui fait la différence entre les deux, vous l'avez compris, hein, c'est l'emplacement du codage de l'emplacement relatif de ces lettres. Pour chacune de ces opérations, il est possible d'imaginer des déficits. Et on verra tout à l'heure justement que la recherche consiste aujourd'hui à décomposer, vous voyez, ce grand système en plusieurs opérations pour imaginer quels peuvent être les déficits empêchant une lecture efficace. Une fois qu'on a construit cette représentation orthographique, ça se fait extrêmement rapidement, on engage deux procédures, d'où le nom de modèle de la double voix. Ces deux procédures, vous les connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous. C'est tout d'abord une procédure qu'on appelle l'assemblage et qui consiste à analyser la représentation orthographique qu'on vient de se faire, élément après élément, groupe de lettres après groupe de lettres, pour associer à chacun de ces groupes de lettres les sons qui leur correspondent dans notre langue. On opère cette opération d'assemblage grâce à un ensemble de règles de traduction graphème-phonème. C'est ce qui nous permet, par exemple, d'associer au graphème OU le phonème OU. Cela se fait très rapidement quand on lit bien, mais ça se fait, même quand on lit bien, de manière séquentielle, c'est-à-dire de gauche à droite dans le sens de la lecture pour notre système d'écriture, de droite à gauche dans d'autres systèmes d'écriture. Cet assemblage permet de reconstruire sur un plan phonologique la représentation orthographique que l'on s'est fait préalablement. Donc là, c'est la représentation orthographique. On la transforme en une représentation phonologique et on la stocke dans une mémoire intermédiaire qu'on appelle un buffer phonologique qui maintient pendant quelques centaines de millisecondes toute l'information que l'on vient de traduire pour nous permettre ensuite de lire à voix haute. Cette lecture à voix haute peut soit se faire directement, soit se faire en empruntant un passage à travers un lexique phonologique qui contient nos connaissances sur la forme sonore des mots telles que l'on utilise ces formes sonores dans la perception de parole et dans la production. Parallèlement à ce processus d'assemblage qui est très laborieux, qui implique l'attention spatiale, qui implique un déplacement séquentiel de l'attention sur les différents groupes de lettres, parallèlement à tout ça, il y a un autre processus qui se réalise. C'est pas l'un après l'autre, c'est l'un en même temps que l'autre. Et le premier qui arrive à la solution gagne. Ce deuxième processus, on l'appelle l'adressage. L'adressage consiste à ne pas décomposer la représentation orthographique élément par élément, mais à prendre en compte toutes les lettres du mot en parallèle pour les confronter directement à un lexique orthographique, c'est-à-dire à une partie de notre mémoire qui contient les représentations orthographiques des mots que l'on connaît, des mots dont on connaît l'orthographe. Si vous connaissez l'orthographe du mot « pour », vous allez pouvoir directement traiter les quatre lettres de ce mot, les comparer dans leur bonne position, puisque tout est codé dans la bonne position, avec les représentations lexicales orthographiques, Une fois que le mot est identifié dans ce lexique orthographique, il est automatiquement associé à sa représentation sonore dans le lexique phonologique, et le mot peut ainsi être immédiatement lu sans passer par cette décomposition laborieuse. Alors, chacune de ces procédures est très utile, même pour un lecteur expert. La procédure par adressage permet une lecture particulièrement rapide et est indispensable pour pouvoir lire à voix haute les mots qui s'écrivent un peu bizarrement, les mots irréguliers. Et la procédure par assemblage, elle nous semble peut-être un petit peu lente, mais on en a bien besoin quand on a affaire à un mot qu'on voit à l'écrit pour la première fois ou quand on doit traiter un pseudo-mot. Donc voilà pour l'ensemble de l'architecture de ce modèle. Et bien sûr, le lexique est associé à des connaissances sémantiques, mais qui sont, dans ce modèle, présentées à part, voilà, à part du lexique mental, c'est-à-dire à part des connaissances formelles sur les mots. Alors, je vais maintenant vous dire un petit mot sur chacune des opérations qui est impliquée dans le système de perceptif visuel spécialisé en lecture. J'ai parlé du mécanisme d'association lettres-mots. Derrière cette association lettres-mots, il y a la nécessité d'opérer un groupement visuel, c'est-à-dire la nécessité de repérer où, sur la ligne, il y a les lettres qui doivent être considérées comme constituant un mot, le mot que l'on va chercher à identifier. C'est quelque chose que l'on fait si rapidement et si naturellement qu'on a l'impression que c'est tout à fait naturel. Mais en fait, derrière cela, il y a une capacité de groupement visuel qui est une capacité très dépendante des caractéristiques physiologiques de notre système visuel, mais aussi de notre attention. Et le problème qui peut survenir à ce niveau et qui survient parfois chez certains dyslexiques et qui explique certaines formes de dyslexie, c'est une incapacité à grouper visuellement des éléments sur une ligne horizontale, alors que ce groupement peut se faire sur une ligne verticale. Je vais vous montrer ceci un petit peu concrètement avec un exemple. Qu'est-ce que l'on appelle le groupement visuel de manière générale ? Eh bien, c'est une capacité devant un ensemble d'éléments comme ici à repérer qu'on a certes quelque chose d'assez chaotique, mais il y a quand même un espèce d'objet ici qui est défini par la proximité des éléments entre eux. On se base sur un critère ici qui est un critère de proximité connu depuis la théorie de la forme, hein, c'est vieux comme les années 20, voilà. Mais on peut aussi se baser sur d'autres critères pour repérer des objets dans notre environnement. Ici, par exemple, ce qui nous saute aux yeux, c'est qu'il y a un objet et puis de la dispersion autour. Ici, le critère, c'est pas la proximité, c'est la connexion. Un autre type de critère, c'est la similarité de couleur. Ici, on repère un objet en rouge sur un reste qui est sur le fond qui est plus chaotique. La similitude de forme, c'est ce qui nous permet de repérer des constellations depuis que le monde est monde. Et puis il y a aussi autre chose, un autre critère qui va être très important pour la lecture, c'est l'alignement. En fait, lorsqu'on regarde ceci, on a normalement l'impression qu'il y a un objet au milieu qui n'est pas parfaitement régulier, mais qui se définit par la continuité des petits éléments. Être capable d'utiliser ces critères pour repérer des objets dans l'environnement, c'est une compétence qui est très générale, qu'on utilise dans la vie quotidienne et que l'on mobilise aussi dans la lecture. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Et cette capacité à repérer des objets, l'objet mot dans le cas de la lecture, c'est une capacité qui est à la fois de bas niveau, c'est-à-dire qui implique la vision dans ses composantes les plus rapides au niveau du traitement, mais qui implique aussi l'attention. C'est un mécanisme qui n'est pas étranger à l'attention. On le sait grâce à des expériences qui montrent que quand on détourne l'attention de quelqu'un lorsqu'il est en train de regarder ces différentes images, quand on attire son attention sur un autre aspect de l'environnement, il ne perçoit pas ces objets. Ils ne ressortent plus de manière aussi spontanée. On ne va pas vous parler beaucoup de cerveau aujourd'hui, en tout cas pas dans ma présentation. Peut-être que Sybille tout à l'heure en parlera davantage. Je voulais simplement vous dire que on sait aussi que ces groupements perceptifs se font grâce à des traitements cognitifs assez élaborés, parce qu'ils n'impliquent pas que l'aire visuelle primaire, en gros, mais ils impliquent aussi des régions du cerveau beaucoup plus étendues, connues sous le nom de voie dorsale, une région occipito-pariétale, lorsque le critère de regroupement est de type spatial. Et lorsque le critère de regroupement n'est pas spatial, comme c'est le cas ici, mais plutôt basé sur la forme, comme c'est le cas ici, ou la couleur, les activations cérébrales qui accompagnent le repérage de ces groupements, ce sont des activations qui sont ventrales, c'est-à-dire occipito-temporales. Voilà. Alors j'en reviens à mon mouton. Mon mouton ici, c'est le critère d'alignement, qui est, vous le devinez, important dans la lecture, et qui normalement devrait vous amener à percevoir cet objet ici, que j'ai artificiellement représenté en rouge pour bien vous le montrer. Il a été repéré chez certains adultes dyslexiques un déficit qui a été qualifié de cécité aux lignes et qui se manifeste de la façon suivante. L'adulte ici ne perçoit pas l'alignement lorsqu'on lui le présente de cette façon. Par contre, il le perçoit tout à fait bien lorsqu'on présente exactement la même image, renversée. C'est-à-dire qu'un alignement, dans ce cas-là, est perçu à la verticale, mais n'est pas perçu à l'horizontale, d'où le nom de cécité aux lignes. Voilà. Alors, c'est Lewis et Frick qui ont montré ceci pour la première fois en 1999. On étudie ces capacités de groupement avec des matrices. Je vais vous montrer, vous faire apparaître rapidement quelque chose et je vais vous demander si vous repérez plutôt des lignes ou plutôt des colonnes. Alors attention, hein, je ne vais pas laisser longtemps. Voilà, est-ce que vous avez perçu quelque chose? Oui, c'est plutôt des lignes. Très bien, ça veut dire que vous avez pu utiliser le critère de groupement basé sur la proximité. Même critère qui devrait vous permettre de repérer ici plutôt des colonnes. Qu'avez-vous perçu? C'est plus difficile. Je vous le laisse plus longtemps. Ce sont des lignes, selon le critère d'alignement. Ici, ce sont des colonnes, selon le critère d'alignement. Lorsqu'on veut tester cette capacité de groupement visuel de manière expérimentale, on a besoin d'utiliser des expériences où on fait flasher sur l'écran des matrices de points, comme ça, qui sont désordonnées, mais dans lesquelles on peut se baser sur certains critères, proximité, alignement ou autres, pour évaluer le seuil de sensibilité des personnes au groupement. Et c'est de cette façon qu'on s'est aperçu que certains dyslexiques n'arrivent pas à faire spontanément ces groupements, et on peut imaginer à quel point ça constitue un handicap pour pouvoir grouper les lettres dans les mots. Alors, j'ai réalisé une expérience basé sur ce type de présentation rapide de matrice auprès d'enfants qui sont dyslexiques, 24 enfants dyslexiques et 24 enfants contrôle non dyslexiques, et voici ce que ça a donné. Pour présenter les choses rapidement, on peut dire que ici, en ordonnée, vous avez des temps de réponse qui montrent que pour les enfants contrôle qui ne sont pas dyslexiques, qu'on utilise le critère de proximité ou le critère d'alignement, la difficulté est la même. Et elle est assez faible puisque les enfants sont rapides. En violet, ce sont les résultats des enfants contrôle, mais en bleu, ce sont les résultats des dyslexiques. Ce qu'on constate, c'est que le groupement visuel se fait déjà de manière beaucoup plus lente chez les enfants dyslexiques, pris dans leur globalité. Autre chose qu'on peut remarquer, il n'y a pas de différence chez les enfants contrôle entre l'utilisation, la capacité d'utilisation des deux critères, alors que les enfants dyslexiques sont moins habiles à utiliser le critère d'alignement que le critère de proximité. Donc ce résultat réplique chez des enfants le résultat de Lewis et Frick que j'ai évoqué tout à l'heure, qui avait montré ceci chez des adultes, mais on voit que ça peut exister chez les enfants dyslexiques, donc c'est potentiellement une des origines possibles de leur difficulté de lecture. Et dernière chose, il semble bien s'agir chez les enfants dyslexiques comme chez les adultes dyslexiques d'une sorte de cécité aux lignes, puisque c'est bien dans le cas où il faut repérer des lignes et non pas des colonnes, à partir du critère d'alignement, que les enfants dyslexiques sont le plus en difficulté. Voilà, donc ça c'était pour la mise en évidence de ce déficit. Alors maintenant, que faire, hein? Comment aider ces enfants? Alors, vous avez peut-être constaté, comme moi, que beaucoup d'enfants, et particulièrement des enfants dyslexiques, mais pas seulement, lisent en penchant le texte. Certains d'entre vous le font pour écrire, mais beaucoup d'enfants penchent le texte, penchent le livre pour lire. S'ils le font, c'est que ça leur apporte quelque chose ou que ça semble leur apporter un certain confort. Pour savoir si l'inclinaison du texte est un moyen qu'utilisent finalement spontanément les enfants pour ramener la ligne à une colonne, de façon à se placer dans une situation qui leur permet de dépasser la cécité aux lignes, pour passer à une lecture et à des groupements en colonnes, on peut réaliser des expériences de ce type où on compare les performances des lecteurs pour lire un texte aligné normalement et pour lire d'autre part un autre texte équivalent pour sa complexité mais présenté de cette façon, c'est-à-dire quasiment avec les lignes à la verticale. Alors, c'est une expérience que j'ai réalisée avec 32 adultes, 72 enfants, 10 enfants dyslexiques, phonologiques ou mixtes, hein, et appariés à 10 enfants contrôle. Et voici un des résultats qu'a montré cette expérience. Cette expérience montre que le nombre d'erreurs des enfants contrôle, qui sont en violet foncé, augmente lorsqu'on incline le texte. Autrement dit, c'est pas du tout quelque chose à recommander à tous les enfants et à tous les lecteurs, parce que ça amène, en moyenne, les enfants à commettre plus d'erreurs. Par contre, si on regarde ce qui se passe pour les dyslexiques, eh bien c'est l'inverse. Pour les dyslexiques, en moyenne, incliner le texte apporte une aide. Alors, ce résultat est statistiquement significatif puisqu'on a une interaction groupe-inclinaison. Ça ne veut pas dire que c'est bénéfique à chacun des enfants dyslexiques, bien sûr, mais on voit que c'est une piste qu'on peut explorer parce que finalement, c'est un aménagement absolument gratuit et absolument sans effet secondaire. Deuxième opération qui doit être réalisée dans la perception visuelle spécialisée pour la lecture, c'est l'identification des lettres. Toutes les lettres doivent être identifiées à l'intérieur du mot pour ne pas le confondre avec d'autres mots connus. Pour cela, on a besoin de mobiliser un mode d'analyse de l'information qui est dit local. Un traitement local de l'information peut très bien être fait parallèlement sur plusieurs unités. Par exemple, quand je vous regarde tous, là, je peux faire un traitement global de l'information pour remarquer comment vous êtes organisé dans la pièce. Ça, c'est un traitement global. Le traitement local, on imagine souvent que c'est un traitement centré sur une personne. Alors, en fait, c'est pas ça. C'est un traitement qui est centré sur l'identité des éléments. Par exemple, je peux considérer l'ensemble de la scène que vous formez en le traitant de manière locale, c'est-à-dire en m'assurant, par exemple, que chacun des éléments est bien un être humain et qu'il n'y a pas une girafe, un gorille, un éléphant qui est venu s'installer à notre workshop. D'accord ? Donc, on peut faire un traitement local en parallèle sur plusieurs éléments, et c'est bien ce qui se passe lorsque l'on réalise cette opération d'identification des lettres à l'intérieur du mot. Ici aussi, un déficit est possible. C'est un déficit qui consiste à avoir des difficultés à opérer ce traitement local si les éléments sont trop proches les uns des autres. C'est ce qu'on appelle une difficulté à réaliser un filtrage attentionnel à cause du masquage latéral que se font les éléments les uns par rapport aux autres. Le masquage latéral, c'est le fait que lorsque l'élément qui nous intéresse est entouré de deux autres éléments visuels qui sont trop proches, il le masque. C'est un phénomène tout à fait normal, pour lequel je vais vous donner juste quelques petits détails. On appelle ce phénomène le masquage latéral ou le crowding ou l'encombrement perceptif. On doit aller au-delà de ce masquage latéral pour lire ce type de mot. Et ici, j'ai choisi exprès une police de caractère qui est très inadaptée pour lutter contre le masquage latéral, puisque vous voyez, si j'attire votre attention sur cette lettre ici, il va falloir mobiliser une bonne capacité de filtrage pour pouvoir la dissocier des lettres qui sont autour. D'accord ? Donc, essayer d'échapper au masquage latéral, c'est quelque chose qui nécessite le filtrage attentionnel, et ce filtrage ne fonctionne pas de manière aussi efficace chez chacun d'entre nous. Chez qui fonctionne-t-il différemment ? Alors, tout d'abord, il n'y a pas que les dyslexiques, il y a les enfants, tout venant, qui ont des capacités de filtrage attentionnel différentes nous, adultes, dont le système visuo-attentionnel est arrivé à maturité. Quand le système visuo-attentionnel est arrivé à maturité, on est gêné par le masquage latéral, surtout pour des stimuli qui sont en vision périphérique. Par contre, si on place le stimulus qui nous intéresse en vision centrale, ce que j'ai fait tout à l'heure en vous indiquant une lettre ici, quand je vous indique une lettre, vous calez votre vision centrale là-dessus, là, vous arrivez à échapper au masquage latéral. D'accord ? Mais vous continuez à être gêné si j'attire votre attention sur le « i » ici et que vous essayez quand même, tout en gardant votre regard centré ici, d'identifier des lettres sur le côté. Alors, donc en vision périphérique, on a tous des difficultés avec le masquage latéral. Mais les enfants, encore à l'école primaire, ont un double problème en vision périphérique et en vision centrale. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir un sacré malentendu. Quand l'enseignant montre à l'enfant un mot, « Oh, tu as vu ce mot, regarde cette lettre, dis-moi quelle est cette lettre. » L'enseignant regarde la lettre et, évidemment, l'identifie sans problème. Et il imagine que l'enfant peut l'identifier aussi facilement. Mais en fait, l'enfant, contrairement à l'adulte, est beaucoup plus gêné par le masquage latéral, même lorsqu'il est en vision centrale, et il peut avoir des difficultés que nous avons du mal à comprendre, parfois, hein, si nous ne connaissons pas cette différence entre lui et nous. Donc maintenant, vous le savez, hein, et il y aura plus ce type de problème. Pour ce qui est des enfants normolecteurs, ça se passe comme ça, et dans le cas des dyslexiques, même lorsqu'ils sont adultes, le problème, c'est que ce développement ne s'opère pas correctement, et le masquage latéral va rester très fort, y compris en vision centrale. Alors, ça c'est le genre de dispositif expérimental qu'on utilise pour étudier le masquage latéral. On étudie ceci en demandant de traiter une cible qui est entourée de deux autres stimuli, relativement éloignés ici ou très proches, et on observe normalement que c'est plus facile de traiter cette information ici à gauche que ici, à cause donc de la proximité des autres éléments visuels. Quand on constate un problème pour filtrer ce masquage latéral, comment peut-on aider? Alors, tout d'abord, il n'y a pas de règle générale pour aménager visuellement l'écrit de façon à aider de la même façon tous les lecteurs pour échapper à ce masquage latéral. Mais heureusement, avec les outils modernes dont on dispose aujourd'hui, il est possible d'opérer des réglages qui vont être individualisés et personnalisés. Si on s'aperçoit que quelqu'un a du mal à lire à cause d'un problème visuo-attentionnel de ce type-là, on peut, en tâtonnant, arriver à trouver le bon espacement permettant de lire correctement, plus correctement. Tout ceci a été étudié expérimentalement et publié dans un célèbre article de 2012 par l'équipe de Zorzi. Ce qu'ils ont fait, c'est présenter à de mêmes participants un texte écrit de manière assez standard, comme ceci, ou le même texte écrit avec davantage d'espace, à la fois entre les mots et entre les lettres. Ils ont observé des résultats intéressants, non seulement chez les lecteurs standards, mais aussi chez les dyslexiques. Ils ont quand même testé 74 dyslexiques, c'est une étude à grande échelle, tout type de dyslexie confondu. Ils ont observé qu'une augmentation raisonnable de ce type-là, de l'espacement entre les lettres et entre les mots, améliore significativement la lecture chez ces dyslexiques et n'entrave pas la lecture chez les normolecteurs. Ce qui veut dire que, ben voilà, c'est ce qu'il faut essayer de faire, trouver un espacement qui n'entrave pas la lecture du plus grand nombre et qui va aider les dyslexiques de manière à rétablir l'égalité des chances face à la lecture. Pour découvrir, pour vous faire découvrir et ressentir surtout de l'intérieur ce que peuvent vivre des dyslexiques lorsqu'ils ont des difficultés avec le crowding, avec le masquage latéral, je vous propose de regarder rapidement ce début de texte si vous commencez à le lire. Normalement, c'est un type d'espacement qui, pour un lecteur sans difficulté, est très bien adapté avec suffisamment d'espace entre les lettres et un espace suffisamment plus grand entre les mots pour favoriser le groupement et pour favoriser l'identification des lettres. Ce qui est aussi important ici, c'est un espacement important entre les lignes. Ça peut paraître artificiel, mais en fait, c'est hyper confortable et c'est très efficace. La suite de cette histoire qu'on demande normalement aux gens de continuer à lire pour se rendre compte des difficultés des dyslexiques, C'est une présentation de ce type. Alors, c'est artificiel, évidemment, mais c'est pour vous faire ressentir ce que peut vivre un dyslexique, un lecteur dyslexique, qui a du mal à faire un groupement visuel selon le critère d'alignement. C'est un petit peu comme si le texte était présenté de cette façon, et vous conviendrez, je pense, avec moi, que c'est pas très confortable. C'est pas très confortable de lire non plus ce genre de présentation. On a parfois ce genre de présentation sur des documents. Ça, c'est quelque chose qui ne nous permet pas d'échapper au masquage latéral, vous voyez. Alors en fait, c'est un petit peu, quand vous regardez ceci, c'est un peu ce que ressent un lecteur dyslexique qui a un problème avec le masquage latéral alors qu'il est devant un texte écrit normalement. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Et puis ça, et ben ça, c'est ce qu'il faut pas faire et c'est ce qui marche pas. C'est si on présente des écartements trop forts entre les lettres et non proportionnés par rapport à la position des mots. Et ceci, et ben c'est ce qui peut aider certains dyslexiques, mais qu'il ne faut pas imposer à tout le monde parce que ça entraîne pas forcément un retard de lecture, en termes de vitesse de lecture, mais ça entraîne beaucoup d'erreurs. Voilà, alors la troisième opération dans le système perceptif visuel spécialisé dans l'orthographe, c'est le codage de l'emplacement des lettres. Il est fondamental de traiter la position relative des lettres à l'intérieur du mot, et là aussi, il peut y avoir des difficultés liées au mode de traitement de l'information visuelle de manière globale. Tout à l'heure, je vous ai parlé du mode de traitement local, qui est centré sur l'identité des éléments. Il y a un autre mode d'analyse, qui est global. Alors, il faut lever un malentendu. On ne parle pas ici de mode de traitement global en faisant référence à la lecture globale. Il existe des techniques d'enseignement de la lecture dites globales qui attirent l'attention de l'enfant sur la silhouette du mot. C'est pas du tout ce dont parlent les scientifiques lorsqu'ils parlent de traitement visuel global. Le traitement visuel global consiste à s'intéresser à la structure, c'est-à-dire à la relation entre les éléments, à l'organisation d'un ensemble et donc, dans le cas de la lecture, à l'organisation des mots, à la position relative des lettres à l'intérieur du mot. Cet intérêt pour la structure est quelque chose qui est très spontané dans le système visuel humain. Le système visuel humain est le seul sur Terre à être à ce point attiré par le mode de traitement global, au point qu'il le réalise, par défaut. Et finalement, il ne s'intéresse aux détails que si la situation rend ceci nécessaire. Pour illustrer là aussi de quoi il s'agit, je vais vous montrer une petite animation ici pour essayer de vous montrer que on fait ce traitement global assez fondamentalement, mais on est quand même capable volontairement, de manière contrôlée, de se concentrer plutôt sur les détails. Alors justement, c'est ce que je vais vous demander tout d'abord, c'est de vous concentrer sur un seul aspect du stimulus visuel que je vais vous présenter, la forme globale, c'est-à-dire la structure de l'ensemble, pour décider si cet ensemble est un E ou un M. Ok ? Alors normalement, on enregistre des temps de réponse, là vous pouvez répondre à voix haute. Que voyez-vous ? E. Voilà. Donc ça, si vous avez répondu E, ça veut dire que vous avez bien suivi la consigne et traité la lettre de manière globale. J'ai entendu A, ce qui est normal. Il y a un pourcentage de la population qui va être spontanément plus attiré par les détails, donc par le mode de traitement local. Voilà. Mais de manière générale, c'est assez facile de traiter spontanément la forme, et quand on demande à tout un groupe d'étudiants, par exemple, que voyez-vous ici, ce qui est relaté, c'est un grand E fait avec des petits a. Et c'est très rarement l'inverse. Ce qui veut dire que quand on s'adresse aux enfants, quand on décrit des scènes dans les livres d'images ou des mots ou tout ce que vous voulez, on part du général, de la structure, pour décrire ensuite les détails. Et on renforce certainement cette tendance que nous avons à traiter le global. Toujours au niveau global, que voyez-vous ? Un E. Or, l'une des deux cibles, c'est E ou M, hein, puisque vous deviez décider E ou M. Ici, normalement, on assiste à plus d'erreurs et il faut plus de temps pour répondre parce qu'on tombe tous un tout petit peu dans ce genre de piège, mais ça reste un piège relativement facile à déjouer. Maintenant, je vais vous demander l'inverse. C'est vous concentrer sur l'aspect local, c'est-à-dire l'identité des petites lettres. Voyez-vous de petits E ou de petits M ? Et ça ne pose pas de problème. Toujours pareil ? Voilà, c'est la même réponse. Comme c'est la même réponse, on a le droit de comparer. Si on compare à la milliseconde près, on observe que dans ce dernier cas où il y a un piège, vous avez vu le piège, hein, au niveau local et au niveau global, on retrouve chacune des deux cibles, il y a une contradiction entre les deux. Ici, c'est vraiment difficile, et c'est difficile et particulièrement difficile parce que on doit se concentrer au niveau local, comme nous le demande la consigne, et répondre « e », mais on ne peut pas vraiment s'empêcher de traiter la forme globale. Voilà, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle un phénomène de dominance du global sur le local. Et c'est un phénomène qui est très asymétrique chez l'être humain. On est plus gêné ici que ici, vous voyez. C'est-à-dire qu'il est plus difficile d'inhiber la forme globale que d'inhiber les détails. Voilà. Alors... Donc ça, c'est ce qui s'est passé quand vous avez répondu. Vous avez subi ce type de piège, mais de manière modérée, alors que le deuxième type de piège est beaucoup plus fort, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal d'avoir ce type de résultat. Et pour pouvoir évaluer si tout fonctionne bien de ce côté-là, il existe aujourd'hui un test qui est accessible sur Internet. J'ai mis la référence ici si vous êtes intéressé. Ce test s'appelle SIGLE et il permet, au moyen de stimuli qui sont des lettres hiérarchisées et des dessins d'objets hiérarchisés, d'évaluer si un enfant ou un adulte a effectivement une dominance du global sur le local ou si au contraire il est atteint d'un problème qui est le suivant et qui se produit souvent chez les enfants dyslexiques de surface, une attraction irrépressible par les détails, attraction tellement forte que la structure est rarement traitée. Voilà. On a fait tout un travail autour de cette expérience qui est devenue un test pour pouvoir étalonner auprès de 500 participants le test lui-même. Donc on propose un étalonnage entre 6 ans et 11 ans, plus chez des adultes. Et ce qu'on observe sur la courbe développementale ici, en bleu, eh bien, c'est le fait que entre 6 ans et 10-11 ans, les enfants deviennent progressivement de plus en plus capables d'échapper aux pièges qui viennent des détails. Ça veut dire que quand vous proposez à un enfant de 6 ans un grand E fait avec des petits M, si vous lui demandez de se concentrer sur la grande lettre, il aura du mal à inhiber les détails, beaucoup plus de mal que vous, et vous n'en avez pas forcément conscience de ça. Et il va falloir attendre qu'il fasse toute son école primaire, finalement, pour arriver à peu près, comme vous, à inhiber facilement les détails. Par contre, pour le traitement global, il va y avoir un traitement global spontané qui est déjà présent à 6 ans et qui va se maintenir. D'accord. Donc la capacité à se concentrer au niveau des détails tout en étant gêné par la structure, et fort heureusement gêné par la structure, c'est quelque chose qui existe précocement et qui se maintient au fil du développement de l'enfant. Autrement dit, il se passe un phénomène intéressant ici du point de vue de la recherche fondamentale, c'est qu'entre 6 et 10 ans, l'enfant développe une capacité spécifique à inhiber les détails. C'est pas une capacité générale d'inhibition, c'est une capacité vraiment spécifique à l'inhibition des détails, puisque on voit ce développement ici, alors que la capacité à inhiber la forme globale ne se développe pas. Voilà. Alors, que se passe-t-il chez les enfants dyslexiques ? Alors, il se trouve que les enfants dyslexiques peuvent présenter différentes formes de dyslexie, on le disait tout à l'heure, et dans une forme qu'on appelle la dyslexie de surface, on observe que dans ce type de test, les enfants ont tout d'abord des difficultés à inhiber les détails. On va pas trop regarder les graphiques dans le détail, on pourra y revenir si vous voulez. On le voit ici, ils sont plus perturbés que les enfants dyslexiques phonologiques ou même que les enfants contrôles. Et ils sont anormalement peu perturbés par l'information qui vient du niveau global, c'est-à-dire qu'ils ne traitent pas assez spontanément la structure. On le voit ici avec une très faible différence par rapport aux enfants dyslexiques phonologiques. Donc, dans cette dyslexie de surface, on observe une double difficulté, une difficulté à inhiber volontairement les détails et une difficulté à traiter spontanément la forme globale d'une configuration. Comment aider un enfant qui a ce type de déficit diagnostiqué par un test de ce genre? Eh bien, tout d'abord, il faut faire le diagnostic de cette difficulté en utilisant, par exemple, ce test. Et ensuite, comme c'est un problème visuo-attentionnel, c'est pas un problème uniquement basé sur une difficulté ou une anomalie physiologique, on peut intervenir. C'est un petit peu l'avantage des déficits qui sont d'origine attentionnelle. Les remédiations ont souvent un petit peu plus de chances d'aboutir à quelque chose de positif. Il existe des remédiations. Par exemple, le logiciel Switch Hypido est un des ensembles d'exercices actuellement proposés pour essayer de remédier à ce type de difficulté. Mais ce n'est pas la seule possibilité que l'on a de tenter de remédier à cela. L'imagination des orthophonistes est très grande et les amène souvent à mettre en place des outils qui peuvent être aussi adaptés par d'autres moyens pour lutter contre ce type de difficulté. J'en viens maintenant à la sortie de ce système d'analyse visuelle qui nous a permis de construire une représentation orthographique à l'issue de laquelle on va pouvoir engager une procédure d'assemblage et une procédure d'adressage. Pour réaliser correctement l'adressage, vous l'avez compris, il faut arriver à traiter simultanément plusieurs lettres pour les comparer à des représentations orthographiques dans le lexique. Pour cela, on a besoin d'une compétence qu'on appelle la fenêtre visuo-attentionnelle, c'est-à-dire une capacité à étendre notre attention visuo-spatiale sur une partie assez large de l'espace. Normalement, cette fenêtre visuo-attentionnelle est suffisamment grande pour nous permettre d'analyser, on va dire, entre 6 et 7 lettres en parallèle. Mais là aussi, il peut y avoir un déficit, et certains d'entre nous avons des anomalies à ce niveau, et l'anomalie s'appelle la réduction de la fenêtre visuo-attentionnelle. En gros, ça veut dire qu'il y a des personnes qui, en situation de lecture, tout comme en situation de conduite automobile ou de parcours d'un paysage, etc., ne peuvent traiter de manière précise, attentionnelle et filtrée, que 2 ou 3 éléments, 2 ou 3 lettres, plutôt que 6 ou 7 dans le cas de la lecture. C'est une fenêtre donc visio-attentionnelle trop étroite. On peut tester cet éventuel déficit avec d'autres tests, le test du report global et le test du report partiel qui ont été mis en place à Grenoble par l'équipe de Sylviane Valdois. Il s'agit de présenter à l'écran très rapidement, pendant 200 millisecondes, une série de 5 lettres qui sont des consonnes. C'est très rapide et immédiatement après, on demande à l'enfant de dire ce qu'il a vu. Voilà. Alors, s'il a une fenêtre attentionnelle suffisamment grande, il va arriver à rappeler les 5 lettres. Si elle est plus étroite, on va pouvoir évaluer l'étroitesse de cette fenêtre. Dans le test de report partiel, c'est pareil, sauf qu'au lieu de rappeler tout ce qu'il veut, l'enfant doit seulement rappeler la lettre qui était située à l'emplacement qu'on lui indique avec un petit trait ici. C'est pas nécessaire de faire cette deuxième partie si l'enfant est déjà en grande difficulté dans le premier test. Il se trouve que dans la dyslexie de surface, les enfants, la plupart des enfants qui relèvent de la dyslexie de surface sont très en échec dans ces épreuves, ce qui montre que leur difficulté d'adressage, hein, c'est comme ça qu'on définit la dyslexie de surface, j'aurais dû le repréciser, c'est un déficit justement dans cette procédure d'adressage, la plupart du temps, elle est associée à une fenêtre visuo-attentionnelle beaucoup trop étroite, ce qui fait que devant le mot, l'enfant ne peut lire que quelques lettres et ne peut pas comparer à des représentations complètes dans le lexique, et il est contraint finalement de basculer vers la procédure d'assemblage pour lire successivement les groupes de lettres, les graphèmes. Voilà. L'autre conséquence que ça a, c'est que quand on lit toujours les mots élément par élément, un mot comme « ailleurs » par exemple, qui est très fréquent mais relativement long finalement, si on ne le lit à chaque fois que petit groupe de lettres après petit groupe de lettres, on a très peu d'occasion de pouvoir enregistrer dans le lexique orthographique une représentation orthographique complète de ce mot. Donc la deuxième conséquence d'un déficit de la fenêtre visuo-attentionnelle, c'est un lexique orthographique qui est pauvre, parce qu'il ne contient pas de connaissances orthographiques complètes, pas suffisamment en tout cas. Pour ce qui est de la procédure par assemblage, là aussi on a besoin d'opérations cognitives particulières, notamment l'orientation de l'attention. Vous l'avez compris hein, tout à l'heure, j'ai rappelé que dans l'assemblage, on traduit chaque graphème en un phonème séquentiellement, et pour ça on doit déplacer, pas forcément les yeux, mais l'attention, de gauche à droite, dans notre système d'écriture. C'est ce qu'on appelle l'orientation de l'attention. L'orientation de l'attention est probablement déficitaire chez beaucoup de dyslexiques. Et on commence aujourd'hui à s'intéresser un petit peu plus à cette question, ce qui va amener, je pense, dans les années à venir, à développer des outils pour essayer d'aller au-delà de ces déficits. Trois déficits essentiels ont été déjà documentés. Un ralentissement général de l'orientation, tout d'abord. Ça, c'est la première chose qui a été montrée par Harry et Ranval dès la fin des années 90. Ça a donné lieu même à une théorie qu'on appelle la théorie du ralentissement de l'orientation attentionnelle. Voilà. Donc, une orientation de l'attention qui peut se faire vers la gauche, vers la droite, en haut, en bas, mais de manière ralentie. Deuxième déficit qui a été repéré chez des dyslexiques, une difficulté à réorienter l'attention vers la gauche. Ça, pour ceux qui connaissent, ça rappelle en fait le syndrome d'hémi-négligence gauche, mais de façon minime. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que c'est qu'une mini-négligence gauche? Si par exemple, j'attire votre attention sur le mot orientation, ici. Votre attention est centrée sur ce mot. Si tout en regardant ceci, je vous demande de vous orienter vers la gauche pour vérifier quel était le mot auparavant, vous allez pouvoir le faire en désengageant votre attention du mot sur lequel vous étiez centré pour orienter votre attention, la déplacer vers la gauche. Pour cela, vous désengagez votre attention et vous la réengagez sur la gauche. Ce sont des opérations qui prennent du temps, qui sont coûteuses et qui seraient déficitaires, mais de manière assez délicate, je dirais, assez subtile, dans certains cas de dyslexie. Alors, c'est ce qu'on appelle une mini-négligence. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs s'accordent à dire que effectivement ça existe, mais que c'est relativement rare. Dans l'expérience que j'ai vu quelques cas, mais ça n'explique pas toute la dyslexie, ni même dans le cadre de la dyslexie de surface. Le troisième déficit me semble plus intéressant et est plus répandu. C'est un déficit d'inhibition. Je vous montre tout de suite comment on peut le mettre en évidence. Voici le paradigme de Posner. C'est un principe d'expérience dans lequel, on va partir de la condition neutre. Ici, on présente ceci à l'écran, c'est-à-dire une croix centrale et des carrés de part et d'autre. La croix se transforme en une double flèche qui est censée orienter l'attention à gauche et à droite. Ensuite, apparaît une étoile qui peut apparaître dans un des quatre carrés. Ici, il se trouve que c'est à gauche. La tâche du participant, c'est de garder les yeux et l'attention sur le centre, puis de décider si l'étoile apparaît à droite ou à gauche. Ici, il faut dire, enfin, appuyer le plus vite possible sur la touche « c'est à gauche ». D'accord ? Et l'indice central est une double flèche qui ne nous a pas particulièrement influencé pour orienter l'attention plus d'un côté que de l'autre. C'est la condition neutre. Dans l'expérience, on a deux autres conditions. La condition valide, dans laquelle l'indice oriente notre attention du bon côté, celui où l'étoile va apparaître. Donc ça, c'est censé nous aider. Et dans une autre condition, eh ben, la flèche indique le côté opposé à celui où apparaît l'étoile. C'est ce qu'on appelle la condition non valide. En comparant les vitesses de décision sur la position de l'étoile à la fin de l'expérience, on peut tirer plusieurs conclusions. Si on compare les performances dans la condition valide par rapport à la condition neutre, on doit normalement obtenir de meilleures performances dans la condition valide, vous l'avez deviné, c'est ce qu'on appelle le bénéfice, et ça permet d'évaluer la capacité à engager l'attention. Personnellement, j'ai jamais vu de problème d'engagement d'attention chez des dyslexiques, apparemment le problème n'est pas là. Par contre, si vous voulez utiliser ça avec des autistes, là on trouve des problèmes. Voilà, pour cette différence, souvent elle est absente. Ce qui nous intéresse plus pour la dyslexie, c'est la différence entre la condition neutre et la condition non valide. En condition non valide, il y a un coût, on est moins performant. Et ce coût, eh bien, il peut présenter deux anomalies. Une première anomalie, c'est être trop fort par rapport à la norme. Dans ce cas-là, on va l'interpréter comme un déficit de désengagement, c'est-à-dire une difficulté. Une fois qu'on s'est orienté vers la droite, par exemple ici, une difficulté à désengager son attention pour retourner vers la gauche. C'est ça la mini-négligence que j'évoquais tout à l'heure. C'est pas ce qu'on retrouve le plus souvent chez les dyslexiques. Et ça, ça a été découvert récemment. Ce qu'on trouve plus souvent, c'est un coup trop faible. Une absence de coup. Alors sur le coup, on peut se dire, oh là là, c'est des super champions du désengagement. Bon, il y a peu de chances que ce soit ça. En fait, c'est plutôt le signe d'un déficit d'inhibition. Je m'explique. Si on oriente votre attention sur la droite avec cette flèche, ce qui se passe, sans que vous vous en rendiez compte, c'est que votre système visuo-attentionnel inhibe la gauche. Ça se fait automatiquement. C'est ce qui explique qu'ensuite l'étoile soit difficile à identifier. Sauf que chez certaines personnes, cette inhibition concomitante, cette inhibition automatique de la région sur laquelle notre attention n'est pas portée, ne se produit pas. Et ça, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut retrouver chez des dyslexiques lorsque l'on les observe dans ce type de tâches. Alors, je passe très rapidement sur ces résultats pour simplement vous dire que quand on fait ce type de tâches en vision, chez des dyslexiques de surface, voilà ce qu'on trouve. On trouve tout d'abord qu'ils sont globalement très ralentis, leurs résultats sont en très plein ici, par rapport au contrôle dont les résultats sont en pointillés. On retrouve donc bien le ralentissement de l'attention dont je vous parlais tout à l'heure. Mais on observe aussi autre chose, c'est que la différence entre neutre et non valide est trop faible. Et c'est statistiquement significatif, aussi bien en vision que quand on teste ce genre de choses dans une expérience équivalente en audition. Et surtout, ce coup qui est trop faible est non seulement en vision et en audition, mais il est trop faible à droite, c'est-à-dire que c'est un déficit qui est latéral. Autrement dit, chez les dyslexiques de surface, on observe une difficulté à inhiber la droite quand on va vers la gauche. C'est-à-dire que quand on fait une saccade de régression pour aller vérifier si le mot qu'on vient de lire est bien celui que l'on croyait, on continue à être parasité par les lettres qui sont sur la droite. Chez les dyslexiques phonologiques, on trouve le même ralentissement de l'orientation de l'attention. Donc ça, ça a l'air d'être un problème général à tout type de dyslexie. Par contre, pour ce qui est de l'inhibition, c'est différent. Pas de déficit d'inhibition en vision, mais un déficit d'inhibition en audition. C'est-à-dire que quand ils s'intéressent à la personne qui parle sur leur gauche, ils ont du mal à inhiber ce qui se passe sur leur droite. Et l'inverse est également vrai, c'est un déficit qui, chez eux, est bilatéral. Donc, contrairement aux dyslexiques de surface, on peut dire que les dyslexiques phonologiques, quand on les évalue par groupe, évidemment, ont un déficit d'inhibition qui est bilatéral, mais seulement en audition. L'interprétation qu'on peut en faire, c'est qu'il faut certainement qu'un déficit d'inhibition dans le domaine auditif soit bilatéral pour qu'il empêche l'enfant de construire un système phonologique de manière suffisamment détériorante pour conduire à une dyslexie de type phonologique. C'est en tout cas mon interprétation, ça n'engage que moi. Le déficit phonologique, j'arrive vers la fin, le déficit phonologique est le déficit le plus étudié et le plus connu dans le domaine de la dyslexie. Il est censé être à l'origine de la plupart des dyslexies, pour certains chercheurs, pour d'autres, être à l'origine de la plupart des dyslexies phonologiques. La dyslexie phonologique se définit comme un déficit de la procédure d'assemblage et très souvent, on impute ce déficit à une difficulté à se représenter les sons de la langue, c'est-à-dire un déficit phonologique. Pour ma part, je ne réduirai pas la dyslexie dite phonologique à cela, parce qu'on peut très bien avoir des difficultés à réaliser l'assemblage en ayant construit des règles de traduction graphème-phonème tout à fait correctes, mais en ayant l'impossibilité de les appliquer séquentiellement. C'est-à-dire que finalement, on peut très bien, et c'est le cas, hein, observer des enfants qui ont un déficit massif de l'assemblage, sans déficit phonologique, parce qu'ils ont construit un système phonologique, simplement ils n'arrivent pas à l'appliquer en lecture à cause d'un problème d'orientation attentionnelle. Ce déficit phonologique, je ne vais pas le décrire en détail, c'était pas du tout prévu. Je vais simplement bien vous rappeler que c'est vraiment l'hypothèse dominante encore en Europe aujourd'hui et d'où la nécessité de développer un petit peu tout ce qui se fait autour d'autres hypothèses. pour ne pas s'enfermer hein, dans un seul schéma explicatif. Le déficit phonologique est vraiment un déficit qui frappe le traitement des sons de la langue et non pas de tous les sons de l'environnement. Donc c'est un déficit vraiment linguistique. Aujourd'hui en France et de manière assez générale en Europe, les orthophonistes savent bien prendre en charge ce type de déficit. Le problème est plutôt pour les enfants qui ont une dyslexie et qui n'ont pas de troubles phonologiques majeurs. Et dans ce cas-là, souvent les orthophonistes disent qu'ils se sentent démunis. D'où l'effort actuel des chercheurs, en tout cas dans notre équipe, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'étudier plutôt les autres types de difficultés pour essayer de proposer des aides. Dernière chose que je voudrais dire sur la dyslexie phono, c'est qu'on a tendance à faire un gros paquet dans les troubles phonologiques, alors qu'à mon sens, il y a 4 types de troubles. Il y en a un premier qui est le trouble phonologique au sens propre, c'est-à-dire avoir construit un système phonologique qui manque de précision et qui ne nous permet pas, par exemple, de faire clairement à l'oral la distinction entre « pas » et « ta ». Voilà. Quand on ne fait pas clairement la distinction entre deux phonèmes à l'oral, c'est pas si grave dans les conversations parce que le contexte nous aide. Par contre, quand l'enseignant nous montre 2 lettres différentes pour représenter des sons que l'on entend de la même manière, c'est difficile d'apprendre à lire et d'admettre qu'il faut utiliser 2 signes différents pour représenter des sons qu'on entend comme un même ensemble, comme un même paquet. Donc ça, c'est le déficit phonologique proprement dit. À côté de ça, chez les dyslexiques, on trouve d'autres types de déficits d'ordre phonologique, mais qui sont tous accompagnés de difficultés relevant d'autres compétences cognitives. Par exemple, les dyslexiques ont souvent des problèmes de conscience phonologique, c'est-à-dire une difficulté à manipuler volontairement les sons de la langue. Raphaël Abadie en parlera mieux tout à l'heure parce que ça fait partie des bilans neuropsychologiques et orthophoniques. On observe aussi des déficits de la mémoire phonologique à court terme, ce qui explique que dans les bilans, on évalue assez systématiquement la mémoire chez les enfants dyslexiques. Ça peut paraître étrange aux parents souvent, mais en fait, c'est très utile. Et finalement, des déficits d'accès à la mémoire phonologique qu'on évalue avec des tests où on présente des ensembles de dessins et on demande aux enfants de dire le plus vite possible le nom des petites vignettes. Alors, c'est une tâche qui est très très facile parce que on entraîne auparavant à nommer ces vignettes, mais on observe un ralentissement de beaucoup de dyslexiques dans ce type de tâche parce qu'ils voient bien ce que c'est, ils voient bien quel est le dessin, ils ont accès au symbole, il n'y a pas de problème, mais ils ont du mal à retrouver l'étiquette du mot dans le lexique phonologique. Et ça peut expliquer un certain retard dans l'activité de lecture, mais aussi certaines difficultés dans la production à l'oral.